Le masque sans la plume.
Je suis allé voir Babylone. Ça raconte l'histoire du cinéma hollywoodien dans les années 20, au passage du muet au parlant. Et c'est un peu sur les excès d'Hollywood à l'époque. Donc les grosses fêtes, les stars qui montent et qui descendent au gré des films qu'ils font. Et c'est assez haut en couleur, on va dire. Mais c'est quand même important de dire que le film commence quand même sur du caca d'éléphant. Et ensuite, c'est une longue scène de 40 minutes où il y a une fête dans une énorme villa privée sur les hauteurs de Los Angeles. Et c'est une grande partie en plan séquence. Il y a des gens tout nus, des animaux sauvages, des éléphants, des danseurs, des chanteurs. Enfin, vraiment, il y a à boire et à manger. Surtout à boire, visiblement. Et la scène est quand même assez prenante. Je trouvais que ça te présentait pas mal les personnages et t'étais tout de suite embarqué dans la démesure du reste du film. Malheureusement, je trouvais que le reste du film était jamais à la hauteur de cette première scène. En fait, j'arrive pas à me rendre compte si c'était comme ça à l'époque ou pas. J'ai du mal à croire qu'il y avait autant de gens à poil, quoi. Ça me paraît hautement probable. Et comme à un moment, il y a une scène de vomi, j'ai du mal à croire qu'on puisse autant vomir. Ça me paraît difficilement envisageable. Et ça montre bien un peu qu'il a voulu grossir un peu tout pour montrer vraiment la grandeur et la décadence par moment du cinéma hollywoodien, quoi. Il y a trois personnages principaux. Il y a Brad Pitt, qui est un peu la star du cinéma, qui est bien installé dans le game, mais qui est sur le déclin. Et on va suivre un peu son déclin tout au long du film. T'as Margot Robbie, au contraire, qui est un peu personne au début du film, et qui, au fur et à mesure du film, va monter un peu l'ascenseur hollywoodien. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est un personnage assez barré quand même. Elle réfléchit pas beaucoup, quoi, avant de faire les choses, mais elle a un petit talent de séduction et d'acting naturel qui fait qu'elle perce dans le cinéma au fur et à mesure du film. Et après, t'as Diego Calva, donc il est un peu moins bankable que Brad Pitt et Margot Robbie, donc il a pas son nom sur l'affiche, mais je pense que c'est quand même celui qu'on voit le plus dans le film, qui est, comment dire, un homme à tout faire d'un producteur de cinéma, et qui va, au fur et à mesure, se retrouver sur les tournages, et c'est un peu à travers ses yeux à lui qu'on voit le film. Enfin, il est un peu émerveillé par le cinéma, comme on sent que Damien Chazelle est très très émerveillé par le cinéma. Il y a deux aspects qui m'ont un peu saoulé dans le film. Alors, le premier, c'est « Je suis un réalisateur de cinéma, j'adore le cinéma, regardez comme mon art est bien. Regardez, je fais du cinéma pour parler du cinéma. On a compris, peut-être que toi tu l'avais jamais fait, mais il y a 1000 autres personnes qui l'ont fait avant toi. Il y en a assez, faites autre chose, on dort. » Et l'autre truc, c'est que ça dure 3h09, le gars ne sait pas finir son film, quoi. Moi, il faut m'inviter à la première séance, je regarde le film et je lui aurais dit « Là, à ce moment-là, tu coupes, tu mets un fondu au noir, fin du film, terminé rideau. » Alors que là, il nous rajoute 45 minutes. C'est chiant, c'est gnangnan. À un moment, il y a un PowerPoint, on sait pas pourquoi, avec des slides de plusieurs couleurs un peu épileptiques, puis des extraits de grands films du cinéma avec un grand extrait d'Avatar, La Voix de l'eau. D'ailleurs, il a dû le voir en avant-première pour le foutre dans son film. Enfin, c'est vraiment too much, quoi. Si ton film était réussi, t'aurais réussi à rendre hommage au cinéma sans faire le PowerPoint. Donc ne fais pas le PowerPoint. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que des gens avaient pleuré et trouvé ça formidable, donc c'est sûrement juste que je suis un hater, et que peut-être que j'aime pas le cinéma, en fait, tout simplement. Enfin, déjà plus de 3 heures, en 2023 c'est plus possible, enfin, je le dis. Les 3 quarts du temps, c'est que tu t'es trompé dans la durée de ton film. Mais en fait, le film est pas nul, et je peux comprendre que des gens aient bien aimé, parce que il y a des scènes vraiment grandioses sur les tournages de l'époque et tout. Tu sens qu'il y a eu des moyens derrière, mais ça donne vraiment des scènes fortes et prenantes, j'ai trouvé. Et à partir de la moitié du film, j'ai trouvé que ça perdait vraiment en intensité. Un petit point positif quand même, c'est que j'ai trouvé que la musique était chouette. Et il y a quand même, tu vois, un taf de décor, de costumes, donc je peux pas être trop dur avec le film. Je pense que c'est un 3.5, quoi. Je comprends pas l'emballage, le ramdam médiatique, mais c'est pas un moment désagréable non plus, quoi.
Je suis allée voir After Sun au cinéma. C'est l'histoire d'une femme qui revit ses vacances avec son père quand elle était gamine. Donc en fait, c'est un immense flashback. Donc on suit la petite Sophie qui a 11 ans, qui part en vacances avec son père, et on voit leur relation à travers ses yeux à elle et à travers son caméscope, parce qu'il filme beaucoup. Ils partent en vacances en Turquie, dans un giga-hôtel, genre hôtel-club et tout. Et ça a tout pour être paradisiaque, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu glauque. L'hôtel, il est impersonnel, les journées se ressemblent toutes, et c'est un peu bizarre, c'est un peu tendu. On apprend des trucs sur les personnages au fur et à mesure du film, donc on comprend que les parents sont divorcés, et que Sophie, elle vit pas avec son père, qu'ils vivent pas dans le même pays. Sophie, elle vit en Écosse avec sa mère, et son père... ailleurs. On comprend que lui, il a une vie un peu bancale, il a pas trop de thunes, elle lui dit d'ailleurs, genre arrête de proposer des trucs que tu peux pas payer, la claque. Lui, c'est un père jeune, il doit avoir une trentaine d'années, alors que sa gamine, elle a 11 ans, et il fait tout pour être un bon père. Il veut tout le temps lui faire faire des activités. Il lui dit que si un jour elle prend de la drogue, il faudra qu'elle lui dise et qu'il l'écoutera, tout ça. Bon, elle comprend pas trop, parce qu'elle a 11 ans, donc elle s'en fout. Mais on voit qu'il est plein de bonne volonté dans son rôle de père et tout, mais qu'il s'y prend un peu comme un pied quand même. Comme les mecs en fait. Donc le père il s'appelle Kaloum, on voit qu'il est un peu perché, bah la preuve il fait du tai chi et du coup il fout la honte à sa gamine qui lui dit arrête de faire des gestes bizarres de ninja, c'est la honte quoi. Mais à part ça, moi je trouve qu'il est plutôt cool quoi. Il est gentil, il essaie de faire des blagues et tout, il est plutôt sympa et il est super beau aussi. Bon ça on s'en fout un peu mais c'est un acteur Paul Mescal que tout le monde connaît mais moi je le connaissais pas et il est super fort et il est super beau et apparemment il est nommé aux Oscars donc on est tous derrière toi Paul. Globalement, c'est un film qui est vraiment super beau. La photographie est magnifique. Il y a beaucoup d'images aussi qu'on voit à travers son caméscope à elle. Donc, je sais pas, un caméscope des années 90. Donc, ça donne une image avec vachement de grains. Ou parfois, ils prennent des polaroïdes aussi. Il y a plein de scènes aussi où on les entend parler, mais on les voit pas. La caméra, elle fixe autre chose. Et je sais pas, je trouve ça hyper beau. Ça donne un truc très poétique. Oui, à un moment, elle lui dit je trouve ça chouette qu'on partage le même ciel. Et je trouve ça trop beau comme phrase sur les gens qui nous manquent et tout ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Et à côté de ça, c'est un film qui est vachement stressant aussi, hein. Moi, j'avais peur que un des personnages meure à peu près à chaque instant. Donc j'étais quand même en tension. Et c'est un film qui est triste aussi. On sort quand même un peu du film avec le cœur brisé, quoi. Faut peut-être le savoir à l'avance. Faut pas aller le voir dans n'importe quelle condition, quoi. Si je devais faire une micro-critique à ce film, c'est que les personnages sont écossais. Et ils ont un tout petit accent écossais, vraiment, qu'on remarque quelquefois, mais pas trop. Alors que moi, je pensais que les écossais, ils avaient un giga accent trop marrant. C'est peut-être parce que les écossais que j'entends parler, c'est soit des rugbymen, soit des gens ivres, soit les deux en même temps. Donc ça, j'étais un peu déçue. Mais voilà, c'est assez léger, quoi. Je crois que je vais donner 5 étoiles parce que c'est un film qui est très émouvant, qui est très beau. On voit peu de films comme ça en fait. Faut absolument le voir. Et en plus, il dure 1h45, ce qui est un luxe en ce moment. Donc, faut y aller quoi.
Cette semaine, je suis allé voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Cela raconte d'une manière absolument catastrophique l'histoire d'Astérix et Obélix qui doivent sauver une princesse chinoise dont le royaume est attaqué de façon sournoise de l'intérieur par de vils mécréants. Donc nous allons suivre les aventures d'Astérix et Obélix qui vont faire un long voyage de la Gaule jusqu'en Chine pour sauver la princesse et sa maman l'impératrice qui est prisonnière avec Ramsay. Je vais donner un premier avis, qui est que ce film est une catastrophe, un cataclysme dans le cinéma français, que l'on ait pu donner 65 millions d'euros à Guillaume Canet pour faire un film aussi nul. Je suis vraiment très choqué, et ça aurait été s'il n'était pas allé pleurer sur tous les plateaux télé pour qu'on aille voir son film. Si on veut pas voir mon film, et plus personne ne voudrait financer mon film. Eh bien, heureusement que personne ne voudra à nouveau financer un film pareil, parce que vraiment, c'est nul. Et pour reparler du casting, le tour de force de Guillaume Canet sur ce film, c'est de rendre des acteurs bons, voire très bons, gênants, absolument tous sans exception. Éventuellement Gilles Lellouche en Obélix qui sauve un peu la face un peu, mais sinon Vincent Cassel en Jules César est horrible, horrible. Marion Cotillard en Cléopâtre est pire que tout. La scène des deux est vraiment le summum de la gênance. J'ai rarement eu envie de me lever et de partir du cinéma en 15-20 minutes, même pas. Qu'on a Guillaume Canet en Astérix qui est vraiment extrêmement mal joué. Il arrive à faire passer Astérix pour un personnage détestable, quoi. C'est un sale type en vrai, Astérix là dans le film. Il donne plein de leçons de morale, en plus il est horrible avec Obélix. Astérix est apparemment vegan, en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous faire croire au début du film. Il y a plein d'autres guests, ça a vraiment été beaucoup utilisé dans l'affichage pour faire du racolage, ce que j'appelle du racolage, parce que vraiment ils n'apparaissent que 30 secondes à l'écran. On a Angèle en Falbala, on a McFly et Carlito, mais alors vraiment, eux, ils ont 10 secondes d'apparition. On a, comment ils s'appellent ces deux cons? Big Flo et Oli. Laura Felpin, ouais, qui a la petite scène, la caution féministe. Pff, inutile. On a Aurel San, qui a une certaine utilité dans le scénario, mais qui, pareil, elle doit avoir 3 lignes de dialogue maximum. Tac, tac, tac. Ramsey. J'ai oublié Jonathan Cohen, alors qu'il est personnage principal dans le film. Il y a plein, plein, plein d'autres acteurs, comme dans ce genre de film, c'est normal. Mais leur utilisation est vraiment nulle à chier, quoi. Pour moi, il n'y a vraiment rien à retenir parce que les décors sont nuls, vraiment très cheap, on dirait du carton-pâte, ça se voit. Les costumes sont nuls aussi, les effets spéciaux sont moches. Je n'arrive pas à comprendre comment 65 millions d'euros ont été dépensés pour faire un film comme ça. Je ne sais pas. Qui s'en est mis par les poches, à part les acteurs et Guillaume Canet. Il n'y a rien qui sauve le film, rien du tout. C'est rare, j'ai jamais mis ça, je pense, mais c'est un 0 sur 5. N'allez pas voir ce film pour vous faire un avis. Ça ne sert à rien en fait, c'est vraiment 2 heures de perdu et surtout 2 heures de souffrance. je vais parler fort là. Là, je vais descendre le cinéma français.
Ok.
Je mets les pieds dans le plat, j'espère qu'il écoutera pas.